Pauline Pucciano, La Cité d'Albâtre, chapitre 9, La Lunaison. Maître Keller délaissa la frontière plus qu'il ne l'avait jamais fait au cours des semaines qui suivirent. Cependant, comme s'il pressentait que le centre de gravité de sa vie avait changé de place, il se montrait indifférent à sa propre défection. Il délégua la plupart des tâches à la plus capable de ses servantes, dont il doubla le salaire, et cessa presque totalement de s'enquérir de ce qu'il ne faisait plus lui-même. Une partie de la clientèle le regretta et se fit moins assidu. D'autres clients, plus respectueux de la hiérarchie, en revanche, se mirent à fréquenter la frontière. Eleanor avait manifesté une soif insatiable de connaissances. Elle avait posé à Keller, en 3 semaines, plus de questions qu'on ne lui avait posées dans toute sa vie. Elle avait appris à avaler la viande, et même à la préparer. Elle avait accompagné Keller partout où il avait ses entrées, dans des tavernes louches, dans des marchés noirs et sur les docks. Ils avaient assisté à un mariage et à un enterrement, avaient pris plusieurs repas chez des bas citoyens et avaient même réussi à se faufiler dans plusieurs manufactures. Partout, Eleanor devait éprouver le même effarement incrédule. On vivait ici, abruti par la fatigue, dans un bain d'agressivité ambiante. On ne pensait jamais plus loin que demain. On savait oublier et nier la maladie. On luttait contre une adversité omniprésente, contre le manque de temps, le manque d'énergie, le manque d'argent, le manque de place, en trouvant des solutions dérisoires ou géniales, mais toujours temporaires. L'alcool était ici consommé avec brutalité. Il n'ouvrait pas les portes de l'imagination, mais celles de la violence et de l'oubli. On devinait qu'il en allait de même des plaisirs de la chair, marchandés en pleine rue. Un jour, accablée, Eleanor avait posé une question à Keller. « N'y a-t-il rien qui soit sacré ici ?»« Sacré ?» avait répété Keller. « Je veux dire, quelque chose de parfaitement inutile, mais à laquelle on accorderait une grande importance, quelque chose de pur. » Keller avait ravalé la honte que lui infligeait cette remarque sur le monde où il avait grandi, et il tenta de répondre objectivement. « Il y a bien l'amour pour certaines personnes, mais elles sont trop rares. Sinon, je crois que la seule chose belle et inutile ici est la haute ville elle-même. Vous voulez dire que les bas citoyens y sont attachés ? Je veux dire quelle est la part de rêve de chacun, que beaucoup d'entre eux en sont fiers, qu'ils reconnaissent sa magnificence comme une sorte de pendant équitable à leur propre misère. » Eleanor avait pris un air songeur, comme à chaque fois qu'on lui énonçait une vérité à laquelle elle n'avait jamais pensé. « Comme ils ont tort, murmura-t-elle, et comme ils devraient la haïr. »« La haïssez-vous vous-même ? » ?»« Non, dit-elle, je ne peux pas l'imaginer détruite. » »« Personne ne peut haïr la beauté et la connaissance. Je suis sûre que les bas citoyens seraient capables d'une guerre civile, mais qu'ils seraient aussi capables de prendre les armes pour défendre la cité. C'est là tout leur douloureux paradoxe. On veut toujours être celui qu'on envie. Beaucoup de bas citoyens comme ma mère ont assez d'humilité pour admirer leur bourreau. » Cette conversation devait hanter longtemps à Eleanor. Les deux jeunes gens terminaient souvent leur soirée chez Kettel, qui les comblait de toutes ses attentions. En échange des nouvelles qu'Eleanor lui apporta, et 15 ans de nouvelles ne tiennent pas en une soirée, Kettel lui fit cadeau de menus objets qui intéressaient la jeune fille. Keller s'était de prime abord senti un peu exclu de leur conversation, mais les efforts qu'il faisait pour parler toujours en langue vulgaire, pour expliciter ce qui n'était pas clairement compréhensible pour lui, et la patience qu'ils eurent toujours face à ses questions, finirent par le rassurer, et il put alors profiter de cet exceptionnel échange à bâton rompu, dans lequel il puisait une infinité d'informations diverses. Toutes les questions qu'il n'aurait pas osé poser, toutes celles auxquelles il n'aurait même jamais pensé, trouvaient leur réponse à l'occasion d'un souvenir, d'un commentaire, d'une plaisanterie de l'un ou de l'autre. Keller s'émerveillait de leur intelligence, s'étonnait de la manière dont ils analysaient les choses et opposait souvent à leur formation commune des arguments qu'ils n'étaient pas habitués à entendre. Un soir, ils lui firent une démonstration de joute verbale qu'Eleanor remporta sans effort et tentèrent de lui expliquer ce qu'était le verbe et l'esprit. Mais Keller jugea qu'ils en avaient une pratique plutôt qu'une réelle connaissance et que leur tentative d'explication restait confuse. Seules deux questions demeurèrent en suspens pendant ces quelques semaines. La première était celle de la filiation de Keller, dont il n'avait pas parlé à Eleanor. Et la seconde, plus urgente peut-être, était celle de la nature de leur relation. Bien que la ville basse entière semblât considérer comme acquis qu'ils formaient un couple, et que cela leur parut plutôt naturel, ils n'abordèrent pas le sujet, et Kettel se montra à cet égard d'une discrétion sans précédent. Alors qu'ils marchaient un soir le long du canal, les yeux dans le vague de la haute ville qui se dressait au-dessus d'eux, le silence s'installa entre eux, à la fois simple et intimidant. Keller avait été réduit au silence par l'évocation de Stelle, quelques minutes plus tôt, qu'Eleanor devait voir le lendemain. Il ne cherchait pas même de raison pour se masquer sa jalousie. Il n'avait aucun droit, aucun pouvoir sur Eleanor, alors même qu'il désirait sa présence nuit et jour. Face au désir qu'elle avait de revoir son ancien amant, de renouer avec son ancienne identité, de pérenniser les liens qui l'attachaient encore à sa vie passée, il n'avait d'autre argument que le silence. Il se sentait pris au piège, dans une sorte d'état d'urgence. Les semaines avaient passé, lentes et belles, des semaines de désir et d'émerveillement, faites de promesses tacites. Et ce soir, il se sentait acculé à une précipitation possiblement désastreuse. Keller n'avait aucune idée de la manière dont l'amour se disait ou se faisait en haute ville, probablement de manière intellectuelle et compliquée, comme tout ce qui venait de là-haut. Il avait peur de passer pour une sorte de bête, de heurter un corps qu'il chérissait déjà, mais dont il ignorait les limites et les résonances. Son désir lui semblait être une force obscure, à laquelle il allait inéluctablement se laisser aller, sans vraiment savoir ce qu'elle emporterait dans son flot. Et ses pensées ruminées ensevelissaient encore un peu plus sa parole. À Eleanor, quant à elle, ne comprenait ni le poids de ce silence, ni celui, plus inquiétant encore, des sentiments qu'elle éprouvait. Keller partageait son désir, elle le sentait, pourtant il la traitait presque avec froideur. Ce paradoxe, elle mit du temps à l'accepter, et plus encore à essayer de le comprendre. En haute ville, l'érotisme était un art. Les plaisirs de la chair se partageaient, comme ceux de la table, dans le raffinement et la satiété. Si la monogamie était très strictement instituée pour la procréation et l'éducation de fratries soudées, les hauts citoyens, d'ailleurs, n'avaient le droit de se marier qu'après la haute école avec un membre de leur guilde, l'acte sexuel, en revanche, était libre et quasiment inconséquent. Elle se remémora sa propre initiation à la chair. Lors de la fête des fleurs flottantes, au solstice d'été, la coutume voulait que les adolescents encore vierges entrent solennellement dans l'âge adulte, en participant pour la première fois à la cérémonie. Elle se souvenait très précisément de la tenue lumineuse qu'elle portait cette nuit-là, des bijoux innombrables qui paraient chaque partie possible de son corps, de la coiffure de fleurs et de perles que sa mère avait réalisée sur elle plusieurs heures durant. Mélangée à leurs aînés dans le jardin d'été, à l'époque du solstice où les fleurs flottantes voguent mollement dans l'air, alanguies par les vapeurs des vins capiteux et des fumées aphrodisiaques, les adolescents se livraient aux rituels érotiques, en apprenait les règles, les codes et le langage. Comme une danse traditionnelle aux multiples variantes, l'acte sexuel était pourtant entièrement prévu et contenu et ne débordait jamais de son espace. On pouvait faire l'amour en haute ville, indifféremment avec un homme ou une femme, avec un jeune de son âge ou avec l'un de ses professeurs, mais il était presque impensable de nourrir à cette occasion des sentiments particuliers. La passion, l'exclusivité, la jalousie, le besoin de solitude et d'intimité étaient considérés comme vulgaires et primitifs. Les plaisirs de la chair, comme ceux de l'esprit, appartenaient à la communauté plus qu'à l'individu, et à Eleanor se souvenait qu'un ou deux couples d'amants, issus de guildes différentes et se refusant à un mariage de convenance, avaient dû choisir l'apostasie, conspuée par la cité méprisante. À Eleanor jeta un œil au profil anxieux de Keller et se sentit rougir. La prendrait-il pour une de ces prostituées des bas quartiers s'il venait à découvrir la teneur de ses souvenirs? Elle aurait pu essayer de lui expliquer, mais une pudeur obscure l'en prévenait. Son sérieux, sa froideur et la force des sentiments qu'il éprouvait pour elle l'intimidaient. Keller ne voulait pas partager les plaisirs de la chair avec elle. C'était beaucoup plus que cela. Et le plus étrange était que cela ne la choquait pas, ne lui faisait pas peur, mais la bouleversait. Cet homme était prêt à remettre entre ses mains son bonheur, sa souffrance, peut-être même le sens de sa vie. C'était un don immense, comme aucun haut citoyen ne pouvait en concevoir, et à côté duquel même l'anneau de lien de Stèle paraissait dérisoire. À Eleanor se sentait submergée par une exaltation totalement différente de l'exaltation sensuelle qu'elle avait mille fois ressentie. C'était la profondeur de l'engagement qu'elle se sentait prête à sceller qui lui donnait le vertige. Un acte absolu et irrationnel, une plongée radicale dans l'autre, dangereuse et sublime à la fois. Lorsque, au début du quai désert, Keller la tira brutalement contre lui, la couvrit de baisers enfantins et désordonnés, et commença à lui faire l'amour comme si leur vie dépendait de l'intensité de leur plaisir, elle oublia subitement et pour toujours tout ce qu'on lui avait appris.